Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est loupé à la Lucky Luke. Propre comme un archiduc, oncle Sam me dupe. Hollywood nous burn, Hollywood burn. Dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Mais gare à Gary Cooper, le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il saute des époques et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chip, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien. Scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une touche cheveux se part, sous des types se baignent. Pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les States sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien, le mal, Lucky Luke et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le prenne. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Western. Le nouveau western. Moderne se noie l'individu. Pour rester lucide, il s'approprie de brandy. Désormais on brandit et les chips et pépites. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau western? Yeah. Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western moderne. Le nouveau western moderne. Le nouveau western. Sitting Bull, Cauchy, Calamity Jane, Jane West.
Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans la nouvelle émission de Radio Camus, intitulée d'un nom incompréhensible et imprononçable, Montaigne was a Thug. Donc, c'est une émission littéraire. Où je vais essayer de parler d'un peu de tout, d'essayer d'être drôle, d'essayer de, voilà, d'être politique, de faire des choses. Et aujourd'hui, pour commencer, on va commencer avec un premier livre qui est Les raisins de la colère de John Steinbeck. Donc, un livre publié en 1939 par un célébrissime auteur américain, donc John Steinbeck, dont je reparlerai tout à l'heure. Et pour commencer, je vais tout d'abord lire un tout petit extrait pour que vous voyez de quoi il s'agit. Premier extrait. Chez nous, au pays, étaient venus des types avec des prospectus réclames, de ces papiers jaunes. Ça disait qu'on avait besoin de main-d'œuvre pour les récoltes. Le jeune homme se mit à rire. Paraîtrait qu'on ait quelque chose comme 300 000 ici, et je donnerais ma tête à couper que tous ces gens-là ont vu ces foutus prospectus. Peut-être, mais s'ils n'avaient pas besoin de monde, pourquoi qu'ils ont pris la peine de faire imprimer ces machins-là ? Fais un peu marcher tes ménages, qu'est-ce que t'attends ? Oui, mais je voudrais savoir. Écoute, fit le jeune homme, mettons que t'aies du travail juste pour un type, et qu'il n'y en ait qu'un qui se présente. T'es forcé de lui payer ce qu'il te demande. Mais suppose qu'il s'en présente 100. Il posa son outil. Son regard durcit et sa voix se fit incisive. Mettons qu'il s'en présente 100 pour ce travail. Mettons que tous ces gars-là, ils aient des gosses, et que ces gosses aient faim. Mettons qu'une pièce de 10 cents suffise à leur payer une boîte de bouillie de maïs à ces gosses. Mettons qu'un nickel suffise à leur payer ne serait-ce qu'un truc quelconque à ces gosses. Et ils sont là à 100. Propose-leur seulement un nickel, et je te promets qu'ils vont s'entretuer pour l'avoir, ce nickel. Tu sais combien on payait à la dernière place que j'ai faite ? 15 cents de l'heure. 10 heures pour 1,5 $. Et encore, t'as pas le droit de loger sur place. Faut consommer de l'essence pour y aller. Il haletait de fureur, et la haine brillait dans ses yeux. C'est pour ça qu'ils ont fait imprimer les prospectus. Avec ce qu'ils économisent en payant les gens 15 cents de l'heure pour travailler au champ, ils ont de quoi en faire imprimer un foutu paquet, tu peux être tranquille. Ça tient pas debout, dit Tom. Donc voilà, première lecture. Qu'est-ce qui peut nous choquer à cette première lecture ? Déjà, les tarifs. C'est quoi ce pays où on est payé 15 cents de l'heure ? Ça pourrait être un pays un peu pourri d'Afrique ou quelque chose comme ça, mais non, pas du tout. C'est les États-Unis, pendant la crise de 1929, quelques années après plus exactement. Donc le livre, publié en 1939, a déjà 10 ans de recul sur cette crise. Et Steinbeck, à travers ses écrits, se permet d'en parler, se permet de faire des petits commentaires. Entre autres sur les salaires très bas et la mauvaise condition des ouvriers. Donc, Les raisins de la colère retracent le périple de la famille Jod, une petite famille de métayers d'Oklahoma, qui va migrer d'Oklahoma jusqu'en Californie. Pour plusieurs raisons. Alors pourquoi ils vont migrer ? Tout d'abord, question de travail. Il y a, au début des années 30, le développement de la mécanisation dans l'Est des États-Unis, donc l'arrivée du tracteur. Alors, le tracteur va poser de nombreux problèmes, puisque il va créer un... On aura besoin de moins de main-d'œuvre pour récolter, pour faire les récoltes, pour planter, pour travailler les champs. Donc le métayer va devenir... obsolète. De plus, le tracteur va monter les ouvriers les uns contre les autres parce que la banque, comme il est très bien expliqué dans la première partie du livre, la banque va recruter un ouvrier pour le mettre dans le tracteur. Et cet ouvrier lui-même va être monté contre les autres ouvriers puisqu'il va les exclure de ses terres et les pousser à l'exode. Donc, c'est la première raison de l'exode de la famille Jod. La deuxième, c'est... une raison plus naturelle et historique. Au début des années 30, l'Oklahoma subit de nombreuses tempêtes de sable, ce qui empêche les récoltes et force un nombre important de métayers à migrer. Donc, problème de travail, problème de climat, toutes les conditions sont réunies pour entraîner l'exode de la famille Jod vers la Californie. cette Californie est présentée par les prospectus réclames, dont il a été question dans le passage que j'ai lu, comme une sorte de nouvel Éden, un pays où tout va bien pousser, tout va bien se passer, où il y a du travail à foison. La preuve, on en voit plein de prospectus, même si en fait ces prospectus ne sont là que pour faire baisser le coût du travail. La Californie, présentée comme un Éden, va être la terre promise, convoitée par de nombreux migrants. Et le mythe de cette terre promise est alimenté par les grands producteurs capitalistes de l'ouest du pays. À travers cet exode, Steinbeck va dépeindre tout l'univers de la Californie capitaliste. Donc je vais m'expliquer sur le terme Californie capitaliste, puisque ça veut un peu rien dire dit comme ça. Donc c'est tout simplement la sphère du travail agricole californien administrée par les grands producteurs, ceux qui détiennent les capitaux et les moyens de production, c'est-à-dire les terres, l'argent et les conserveries, et qui vont régir en fait tout l'ensemble de cette société, qui vont la faire graviter autour d'eux. Donc c'est cet univers, cette ambiance qui va être l'origine des mots de la famille Jaune. Notamment parce que les migrants, dont font partie les Jaunes, font l'objet d'un espèce de jeu de yo-yo. C'est-à-dire que les capitalistes vont les attirer à eux, un peu comme un yo-yo, quoi, et les attirer dans la sphère du travail, chercher à les incruster en fait dans la sphère du travail, en faire des outils, en fait, des outils de production. Et d'un autre côté, ils vont être renvoyés de la vie privée, de la vie publique de la Californie. On veut bien d'eux en tant qu'instrument de travail, mais sinon, on va les cantonner dans des camps, dans les Hooverville, c'est le nom que prennent ces camps, du nom du président Hoover, celui qui est en poste à cette époque-là, et qui doit essuyer les effets de la crise de 29. Donc ces migrants sont rejetés de la sphère publique et cantonnés dans ces Hooverville. Il n'y a pas grand-chose en fait de nouveau dans tout ça, puisque c'est le même principe que ce principe de yo-yo, comme on peut l'appeler. C'est le même principe que celui pratiqué avec le servage ou avec l'esclavage, et peut-être même à une autre échelle avec la carte d'identité, même si c'est plus subtil. La carte d'identité donne le droit quelque part de participer à la vie publique d'un État. Et sans carte d'identité, on est exclu exactement comme la famille Jaud.
M'arrache à mes emmerdes, j'ai l'heure qu'ils ne pourront pas fliquer mon anarchie. J'ai l'heure, je suis trop à cran pour me formater. Tu captes que je suis pas une rappeuse, mais une contestataire qui fait du rap. J'ai l'heure, ça vient du 13. MARS pour les vilains en détresse. Anti-système, y'a ni à mon ma soeur, mais j'ai l'heure qu'on les crève. J'ai l'heure, j'aurai le poing levé jusqu'à ce qu'on vienne m'abattre. C'est l'heure de choisir son temps, la liberté d'expression en cavale. J'ai l'heure, j'en ai rien à péter des stars. Marginal à la plume, énervé, s'il te plaît, ne mets pas sur un piédestal. Anonyme dans la masse avec un haut-parleur. J'ai l'heure qu'on croit en la justice du ciel et pas en la leur. J'ai l'heure, je suis pas celle qui ne pense qu'à rafler. J'essaye de filer de la force par la foi, pas facile, avec un cœur pas lafré. Mon rap continue d'avancer sans une esquive. Le missile est lancé, ça je te l'ai annoncé dans une esquive. J'ai l'heure que le missile s'apprête à rentrer dans la matrice. Insurgé car leurs normes sont condamnatrices. J'ai l'heure des chants des oubliés, le cœur des opprimés. J'ai l'heure, c'est l'heure, j'ai l'heure qu'on nous a trop endoctrinés. J'ai l'heure que le missile s'apprête à rentrer dans la matrice. Insurgé car leurs normes sont condamnatrices. J'ai l'heure des chants des oubliés qui ne veulent plus être passés. shit, chiller, c'est leur dealer. Car mon rap, on est assis, dealer. Mon rap est un appel à résister, dealer. J'appartiens qu'à mes idées, irrécupérable, c'est plus que décidé, dealer. Que je me fous de leur médaille et de leur galon. Que mon rap est ma cam, seulement si mon cœur est mon garrot, dealer. C'est trop tard pour désamorcer l'engin qui vole au-dessus de Babylone, représentant la rage des sœurs et des frangins. Tous les oubliés du monde tapant derrière les portes verrouillées. Parfois l'envie de tout piller nous manque, dealer. Ce thermomètre a pété dans l'incendie, il fait dans la violence du système. Qu'on a bien senti, j'ai l'air que mon rap est ma revanche. J'envoie le missile dans la machine avec la folie de croire qu'il lui explosera dans le vent. J'ai l'air que c'est ma seule raison de sauter dans le vide. Que j'atterris, ce sera avec la rage du peuple dans le beat. J'ai l'air, j'm'en vais flinguer les sentinelles. Appelle-moi la Marseillaise, plus révolutionnaire que ton chant sanguinaire. J'ai l'air que le missile s'apprête à rentrer dans la matrice. Insurgé car leurs normes sont condamnatrices. J'ai l'air que c'est le chant des oubliés, le cœur des opprimés. J'ai l'air, c'est l'heure, j'ai l'heure qu'on nous a trop endoctrinés. J'ai l'air que le missile s'apprête à rentrer dans la matrice. Insurgés car leurs normes sont condamnatrices. J'ai l'heure, c'est le chant des oubliés qui veulent plus être passifs. J'ai l'heure, c'est l'heure, j'ai l'heure car mon rap, on est assis. J'ai l'heure, c'est sincère dès lors que ma plume s'exprime. Rage ancestrale, j'ai l'heure que le rap a perdu ses esprits. J'ai l'heure, je me fous de la tendance et de ce que les gens disent. Que je me fous de leur contrat, que je reste libre comme l'air. J'ai l'heure que c'est mes tripes, que je te sers avec du style. Que même signé en maison de vie, viens tirer sur ton industrie. J'ai l'heure, je fermerai pas ma gueule. J'ai l'heure, j'oublie pas pourquoi je gosse, ni pour qui encore moins compte. J'ai l'heure que j'oublie rien. J'ai l'heure que je reste sur ma rive, heureuse de faire stresser les fils de chiens qui insultent ma ville. J'ai l'heure, j'oublierai jamais d'où je viens. J'ai l'heure, peu importe ce qui m'attend, ce qui m'accueille, je marcherai vers ma vérité. J'ai l'heure que si la vie me réserve la gloire, j'ai pas trop hâte. Laisse-moi dans mon maquis car movie pop est bien trop hype. J'ai l'heure que j'avance là où les traîtres rechignent. Si t'es dame, fais tourner le son, moi cherche le nombre et pas le chiffre. J'ai l'heure, j'ai l'heure, j'ai l'heure, j'ai l'heure. Killer, 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 killer. Je reste fidèle à mes engagements. Killer, killer, je reste libre comme l'air. Killer, killer, j'oublierai jamais d'où je viens. Killer, killer, je fermerai pas ma gueule. Killer, je marcherai vers ma vérité.
Donc voilà. Les migrants sont exclus de la sphère publique. Et pour refouler les migrants, deux moyens langagiers, parce que bon, je vais essayer de parler un peu de langage, puisqu'on essaie de parler de littérature, sont employés. Donc, le premier, hookies. Les migrants sont traités par tous les gens de Californie de hookies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hookies? Alors, tout d'abord, un hookies, ça vient de Oklahoma, donc c'est ceux en provenance d'Oklahoma, sauf que c'est un terme extrêmement péjoratif, comme on peut s'en douter. Ça désigne, comme par surprise, pas uniquement en fait, les migrants qui viennent d'Oklahoma, mais aussi ceux qui viennent du Kansas, du Texas, du Nevada, du Nouveau-Mexique et de l'Arkansas. C'est un terme fourre-tout, et c'est une grosse insulte, ça on va le voir bientôt. Et ce genre de terme font tout, en fait, ça me fait presque penser un peu au terme de Rome aujourd'hui. Un Rome, on sait même plus ce que c'est. On prend des mecs, on voit qu'ils habitent plus ou moins dans des caravanes, on dit c'est des Roms. Alors, est-ce que c'est plutôt... qu'est-ce que c'est? C'est des Roms qui viennent de Roumanie? Ou alors c'est plutôt des gitans, des gens qui sont là depuis des fois des dizaines de générations, mais qui n'ont pas des têtes tout à fait françaises, on pourrait dire. Et ou alors qu'est-ce que voilà, on est complètement paumé avec ce genre de grandes appellations, Rome, Hookies. Ben les Américains, ils avaient exactement le même truc. Et on va voir un peu ce que pensent les habitants de Californie, les Californiens, de ces Hookies. Le flot perpétuellement renouvelé des migrants fit régner la panique dans l'Ouest. Les propriétaires tremblaient pour leurs biens. Des hommes qui n'avaient jamais connu la faim la voyaient dans les yeux des autres. Des hommes qui n'avaient jamais eu grand-chose à désirer voyaient le désir brûler dans les regards de la misère. Et pour se défendre, les citoyens s'unissaient aux habitants de la riche contrée environnante. Ils avaient soin de mettre le bon droit de leur côté en se répétant qu'ils étaient bons et que les envahisseurs étaient mauvais, comme tout homme doit le faire avant de se battre. Ils disaient « Ces damnés Hookies sont crasseux et ignorants. Ce sont des dégénérés, des obsédés sexuels. ces sacrés bons dieux d'Oukiz sont des voleurs. Tout leur est bon, ils n'ont pas le sens de la propriété. Alors en fait, l'Oukiz, c'est quoi? Ben, c'est un terme xénophobe tout à fait classique. Hein. On n'a qu'à voir la description qui en est faite par, on pense, la voix d'un Californien. Ça veut dire que, un Oukiz, ça veut dire que c'est quelqu'un qui pue, qui viole, hein. On voit bien, ce sont des obsédés sexuels, qui violent, qui prennent le travail, et surtout, qui n'ont rien à perdre. Et ça, ça fait super peur. Les Oukiz ne sont pas propriétaires, alors que les Californiens sont là à s'accrocher au bien qu'ils ont, au bien qu'ils possèdent. Les Oukiz, eux, arrivent avec rien, juste du travail, leur force de travail à proposer, quelque argent à gagner. Encore, on va voir que c'est pas facile. Mais surtout, rien à perdre. Ce que Steinbeck essaie de nous montrer, peut-être, dans ce passage sur les Oukiz, c'est que ce qui fait peur chez les Oukiz, c'est qu'il est en puissance. Ce que nous pourrions devenir si nous-mêmes nous perdions notre propriété. Si nous n'avons rien, nous serions nous aussi des Oukiz. Nous serions forcés d'émigrer, nous serions forcés d'aller mendier du travail. C'est même pas mendier de l'argent, c'est mendier du travail. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être le fait que le Oukiz soit un miroir en puissance de notre condition humaine qui fait que le Oukiz est repoussant et qu'on veut le stigmatiser, qu'on veut le voir disparaître. Donc voilà, c'est le premier terme langagier utilisé pour refouler les migrants hors de la sphère publique. Le deuxième, c'est le terme de rouge. Alors le terme de rouge, comme on peut s'en douter, c'est un terme politique qui rappelle globalement, enfin, le communiste, qui évoque globalement le communiste, mais d'une manière tellement vague, en fait, que il va permettre d'exclure tous les migrants de la sphère publique, même s'ils n'ont aucun rapport avec le communisme ou quoi que ce soit. Donc en fait, le terme rouge peut se définir par son caractère extrêmement vague. Et à ce propos, donc voilà, par un caractère extrêmement vague. Si on repousse les migrants, c'est parce qu'ils ont ce potentiel en fait de rouge, ce potentiel révolutionnaire. Il y a un autre passage du texte où je vais pas le lire parce que bon, on va aller plus vite, où Monsieur Jaud parle entre deux coups de pelle avec un migrant qui est là depuis plus longtemps que lui. Et ce migrant va lui raconter une histoire. C'est l'histoire du capitaliste, Monsieur Heinz, comme il l'appelle, avec ce nom un peu spécial, consonance allemande, puisqu'on sait que les Allemands sont implantés depuis un bon moment, hein, pour partie aux États-Unis. Donc ce Heinz est un gros producteur capitaliste qui rencontre un de ses ouvriers. Alors, il est sorti du château dans lequel il est censé être enfermé, et il rencontre par hasard un de ses ouvriers qui lui dit la chose suivante. Monsieur Heinz, je vous vois sans cesse en train de râler, en train de pester contre ces salauds de rouge. Mais qu'est-ce que c'est que ce salon de rouge ? Là, le monsieur Heinz regarde fixement son ouvrier et lui dit « Un rouge, c'est n'importe quel ouvrier qui demande 25 cents de l'heure quand on n'en paye que 20. » Alors là, c'est la punchline, comme on pourrait dire, qui casse tout. Le rouge, c'est n'importe quel ouvrier qui demande 25 cents de l'heure alors qu'on n'en paye que 20. Et encore, il ne devait même pas y avoir le « que » dans la phrase, alors qu'on en paye 20. Là, c'est complètement... C'est pour montrer le caractère totalement vague du rouge. Le rouge, ça peut aussi bien être le terroriste anarchiste qui va aller poser des bombes que le pauvre ouvrier qui est là à demander simplement une petite augmentation de 5 cents. Et c'est cette force du caractère extrêmement vague du mot qui va permettre de repousser tous les ouvriers hors de la sphère publique. Donc c'était le deuxième terme langagier. Ce terme, si vous voulez, ça me fait un peu penser aujourd'hui à l'emploi du mot communiste. Aujourd'hui, si vous croisez quelqu'un dans la rue, que vous lui dites « Oui, je suis communiste », il va vous regarder dans sa tête, s'il n'est pas trop au courant, s'il ne connaît pas l'histoire du mouvement, toutes ces choses-là, dans sa tête, ça lui met un gros voyant rouge. Communiste égale Staline, égale URSS, égale Goulag. Voilà, un repoussoir absolu pour un terme communiste qui est aujourd'hui, qui n'a plus vraiment de, enfin, qui ne réfère pas à quelque chose de précis dans l'imaginaire populaire, on va dire. Alors que communiste, ça aurait pu faire penser à d'autres choses, pas forcément au goulag et toutes ces choses-là. Et justement, que toutes ces choses négatives, considérer le terme communiste pour essayer de se défaire en fait de la charge négative de ce terme. Ce que certains partis, par exemple, je pense au NPA, ont fait, c'est évacuer le terme. NPA, c'est le nouveau parti anticapitaliste, ils n'ont pas utilisé le terme communiste. Donc ça voulait à la fois marquer un renouveau, mais aussi essayer d'esquiver tout ce passif, en fait, péjoratif du terme. A l'inverse, le parti socialiste s'appelle toujours socialiste, alors qu'ils n'ont plus vraiment grand-chose de socialiste. D'ailleurs, M. Valls, il paraît qu'il voulait revenir sur le nom socialiste, et pour le changer, il aurait peut-être dû, parce que des fois, il y a des choses qu'il faut un peu assumer. Voilà.
Regarde les brûlures de mon âme, marquées au fer rouge, comment faire ma mémoire me condamne. matinale. La voix dehors, la loi pour une gosse qu'on a rendue marginale. Jeune dévoyée, placée de foyer en foyer. Leur putain de machine veut me broyer, mais vas-y, lâche-moi, j'ai mal. Je rentre pas dans ton moule. Mon besoin de liberté est trop grand, dresser c'est sauvage. Ah bon, alors j'emmerde ton slogan, retiens bien tes ordres et ton système, je m'en tape. Esquiver tes lois est devenu un vulgaire, j'ai mental. Ma revanche, l'épée, je la brandis avec foi. Trop de carence dans le cœur, mes plaies ont grandi avec moi. C'est trop tard pour que je guérisse, c'est trop tard au point même de ne plus pouvoir expliquer les douleurs qui me malmènent. Alors je cours, mais mon passé me rattrape. Je cours malgré les boulets et ma mémoire veut ma page. Je cours sans cesse et sans répit, sachant pertinemment que le poison est dans ma tête et qu'on ne peut se mettre son nom. Je cours.
Personne ne guérit de son enfance.
Les émigrants déferlés sur les grandes routes. Et la colère était dans leurs yeux, et la faim était dans leurs yeux, et la détresse était dans leurs yeux. Ils n'avaient pas d'arguments à faire valoir, pas de méthode. Ils n'avaient pour eux que leur nombre et leurs besoins. Quand il y avait de l'ouvrage pour un, ils se présentaient à 10. 10 hommes se battaient à coups de salaire réduit. Si ce gars-là travaille pour 30 ans, moi, je marche à 25. Il accepte 25, je le fais pour 20. Attendez, c'est pas que j'ai faim, moi. Je travaille pour 15 cents. Je travaille pour la nourriture. Si vous voyez les gosses dans quel état ils sont, ils ont des espèces de clous qui leur poussent, à peine s'ils peuvent remuer. Je leur ai donné des fruits tombés, et maintenant ils ont le ventre enflé. Prenez-moi, je travaillerai pour un morceau de pain. Bonne affaire, les salaires baissaient, et les courses maintenaient. Les grands propriétaires se frottaient les mains et envoyaient de nouveaux paquets de prospectus pour faire venir encore plus de monde. Les salaires baissaient sans faire tomber les prix. D'ici peu, nous serons revenus au temps des serfs. Là, je saute un petit passage parce que je fais ce que je veux. Et les sociétés et les banques travaillaient inconsciemment à leur propre perte. Les vergers regorgeaient de fruits et les routes étaient pleines d'affamés. Les granges regorgeaient de produits et les enfants des pauvres devenaient rachitiques et leur peau se couvrait de pustules. Les grandes compagnies ne savaient pas que le fil est mince qui sépare la faim de la colère. Au lieu d'augmenter les salaires, elles employaient l'argent à faire l'acquisition de grenades à gaz, de revolvers, à embaucher des surveillants et des marchands, à faire établir des listes noires, à entraîner leurs troupes improvisées sur les grandes routes. Les gens erraient comme des fourmis à la recherche du travail, de pain, et la colère fermentait. Donc d'un côté, c'est un peu la misère en Oklahoma. La colère fermente, personne n'a rien à bouffer, c'est la merde. Mais d'un autre côté, moi je trouve que Steinbeck est quand même vachement optimiste. Si on regarde la fin, on a l'impression que la révolution est là, qu'elle approche. On a l'impression qu'elle est au pas de la porte, là. La colère fermente. Oui, on y est. Donc, sachant qu'aujourd'hui, 70 ans plus tard, on n'a toujours peut-être pas vu de révolution prolétarienne, vraiment. Oui, peut-être. Hein. Je trouve que Steinbeck est sacrément optimiste. Et ça, je kiffe. Donc c'est bien, Steinbeck, t'es optimiste. Mais Steinbeck, on parle de toi depuis le début et on ne s'est toujours pas quitté. Donc je vais peut-être essayer d'expliquer un peu qui était ce Steinbeck. Mr. Steinbeck, John Steinbeck, est né en 1902 à Salinas, c'est-à-dire en Californie. Tiens, 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 comme par hasard, là où se précipitent tous les migrants. Il est né à Salinas, donc dans la ville de la Salade. Autant dire qu'il en sait un paquet sur les vergers, toutes ces choses-là, toutes les choses que les migrants viennent cultiver. Sa mère est institutrice, son père est trésorier, ça, on s'en fout. Il va étudier la littérature anglaise à Stanford, Ça, on s'en fout. Surtout qu'il quitte Stanford sans diplôme en 1925. Comme quoi, un diplôme, ça n'empêche pas de devenir écrivain, de devenir un écrivain de malade. Et là, il retourne en Californie faire divers petits boulots. Donc, c'est dans les années 30 qu'il va commencer à devenir un écrivain célèbre. Et en 1943, il devient correspondant de guerre pour la New York Herald Tribune. Yeah. Et enfin, prix Nobel en 1962. Donc, une vie totalement diversifiée. Le mec est allé partout. Il a été étudiant, il a été ouvrier, il a été petit pigiste, il a été grand reporter, il a été écrivain délaissé. Et finalement, il a été prix Nobel de littérature, ce qui est quand même pas rien. Donc, c'est un gros bonhomme. Il a aussi bien connu les plus hautes sphères de la société que les plus basses. Et il en parle plutôt bien. Donc, c'est peut-être le fait d'avoir été partout, on imagine, d'avoir côtoyé tout le monde, qui va souvent le pousser à prendre parti dans ses livres pour les classes laborieuses, les ouvriers, les paysans, mais aussi les marginaux, comme dans deux autres bouquins de fous. Rue de la Sardine et Tortilla Flat, où on a une bande de clochards complètement dégénérés qui font n'importe quoi, et c'est un plaisir. C'est des livres de fous. Pourtant, si Steinbeck défend le peuple, est-ce qu'on peut faire de lui un écrivain révolutionnaire, voire un écrivain communiste? Ça, c'est la question qui va m'intéresser pour la suite du livre. C'est n'importe quoi, mec. Pour la suite de l'émission. Donc, est-ce que Steinbeck est un écrivain communiste? Est-ce que Steinbeck est un écrivain révolutionnaire? Alors déjà, il faut savoir que pour Steinbeck, révolutionnaire et communiste, ça n'a rien à voir, c'est même l'inverse. Donc ça peut être peut-être choquant au début, mais c'est sa pensée, c'est comme ça qu'il le voit. Et ça, je vais expliquer bien pourquoi après. D'abord, il faut savoir que le Steinbeck qui va écrire Les raisins de la colère en 1939 n'a rien à voir avec le Steinbeck qui obtiendra le prix Nobel, rien à voir, non, j'abuse un peu. Mais n'est pas le Steinbeck qui obtiendra le prix Nobel en 62. Il y a une raison très simple à ça, hein, si on schématise, c'est qu'en 1948, Steinbeck fait un voyage en URSS en tant que reporter avec son ami le photographe Joseph Capa. Je ne sais pas si vous connaissez, il est quand même assez connu, mais bon, on s'en fout. Donc voilà. Il part en URSS et là, grosse désillusion concernant la révolution prolétarienne. Alors, voilà, on y voit, on peut dire, les ravages du stalinisme. Hein. Il est confronté à ça de plein fouet. Et donc, il y a deux Steinbeck. Celui qui, en 1939, écrit une œuvre de 600 pages, Les raisins de la colère, avec pour thème central la condition ouvrière, avec même dans le livre des allusions à Lénine, des reprises des théories marxistes, et le Steinbeck de après 48, qui écrit un texte que je vais vous lire en 1954, un texte intitulé « Je suis un révolutionnaire », donc qui va nous concerner au plus haut point, un texte qui paraît, alors là je vous le donne en mille, vous ne trouverez jamais où c'est qu'il a paru ce texte, dans le Figaro, ouais, le Figaro français, parce que Steinbeck a fait pas mal de voyages en France, tout ça, le mec il est VIP, il va partout. Et donc il a écrit dans le Figaro, ce qui n'est pas répété pour être un des journaux les plus à gauche du monde, un article qui s'intitule « Je suis révolutionnaire ». Et ça je vais vous en lire un petit bout. C'est Steinbeck qui parle dans le Figaro. J'ai lu récemment un article cherchant à rassurer mes lecteurs en leur expliquant que je n'étais pas un révolutionnaire. Au même moment, le Parti communiste emploie le même argument pour dénoncer mes écrits. Je m'empresse d'informer tant l'extrême droite que cette pseudo-droite qui se fait appeler la gauche qu'elles se trompent toutes deux. Je suis en fait un dangereux révolutionnaire. Les communistes actuels se montrent aussi révolutionnaires que les dames patronesses qui commémorent la révolution américaine. Une fois leur coup d'État réussi et leur pouvoir confortablement assis, la révolution devient leur cauchemar. Il leur a fallu traquer et supprimer tous ceux qui affichaient la moindre tendance révolutionnaire, y compris ceux qui avaient contribué à la réussite de leur entreprise. Là où ils détiennent le pouvoir absolu, ils ont mis en place les gouvernements les plus réactionnaires au monde. Des gouvernements qui redoutent à ce point la révolte qu'ils en sont réduits à faire de chaque homme le délateur de son prochain.
et à implanter une police secrète à chaque échelon de la société. Comme toutes les organisations qui se sentent vulnérables, ils doivent maintenir une expansion constante pour dissimuler leur fragilité. Si un autre mouvement suivait ce modèle, il le traiterait d'impérialiste. Ils ne m'apprécient pas plus que mes œuvres, qu'ils ont fait disparaître dès qu'ils en ont eu le pouvoir. Mes livres sont interdits dans les milieux soviétiques. Non pas parce qu'ils ne sont pas révolutionnaires, mais précisément parce qu'ils le sont. En effet, toute forme de critique est interprétée comme un signe de révolte par les deux grandes ailes réactionnaires. Voilà ce qui nous pose le John Steinbeck. Alors là, il s'en prend assez violemment à l'URSS, au système communiste. Mais pas uniquement, hein, puisqu'il renvoie en fait dos à dos ce qu'il appelle les deux blocs réactionnaires, composés d'une droite américaine qui pourrait aujourd'hui s'apparenter à un Tea Party, voilà, les dames patronesses qui commémorent la révolution américaine, ce sont ces sortes de réactionnaires américains, voilà, qui considèrent que l'Amérique ne doit pas s'ouvrir sur le monde, qui considèrent que leur système est le mieux, qui sont ces dames patronesses sont en fait les femmes des grands capitalistes. Donc c'est par cet intermédiaire, Steinbeck s'en prend directement aux capitalistes. Et d'autre part, l'autre aile réactionnaire, c'est le parti communiste du RSS. Donc il faut déjà, avant tout, rappeler que ce texte est écrit dans le cadre de la guerre froide. Donc en 1954, la guerre froide atteint un certain niveau de violence, de véhémence, on est obligé de prendre part pour l'un ou l'autre des deux blocs. Et Steinbeck a clairement choisi son bloc, même s'il ne s'empêche pas de le critiquer. Et c'est le bloc qu'il a choisi, c'est le bloc américain. Donc, on va décortiquer un peu le passage que je viens de lire. Steinbeck dit que le Parti communiste l'accuse de ne pas être révolutionnaire. Alors, ce que Steinbeck dément tout au long de l'article. Déjà, il faut replacer le terme révolutionnaire dans le contexte de la rhétorique communiste. Le terme de révolutionnaire, pour les communistes, c'est la révolution soviétique considérée comme seul modèle de révolution qui existe. La révolution, pour les soviétiques, c'est uniquement leur propre révolution, qui est considérée comme une révolution prolétarienne, dans son sens marxiste le plus pur. En fait, ils ont lu Marx, ils ont dit « Voilà, nous, on a fait ça, et ça correspond exactement à ce que Marx avait prédit. » Comme c'est magnifique. Donc voilà. Ça, c'est le terme révolutionnaire tel que le conçoivent les communistes. Puisque Steinbeck critique l'URSS, il n'est pas pour la révolution. C'est là la rhétorique communiste. Il n'est pas pour la libération des peuples, il n'est pas pour la libération des masses. Il est contre-révolutionnaire, il est donc réactionnaire. D'où l'insulte qui est faite à Steinbeck par les communistes. Vous n'êtes pas révolutionnaire, vous serez donc interdit en URSS. Vous êtes un réactionnaire. Mais Steinbeck, lui, il va facilement retourner toute cette argumentation soviétique, qui est assez grossière en fait. Il va facilement la retourner en étendant les acceptions du terme révolutionnaire. Lui, il va dire, non, révolutionnaire, c'est pas uniquement avoir fait votre révolution en 17, en 21, c'est pas ça. Être révolutionnaire, c'est quelque chose de plus large. C'est être quelqu'un qui renverse un système établi. C'est le sens le normal, en fait, du terme révolutionnaire. La révolution, c'est faire un tour, c'est renverser. Donc voilà, Steinbeck, il dit, vous, depuis que vous avez installé votre propre système, vous n'avez plus rien de révolutionnaire. Un parti au pouvoir ne peut pas devenir révolutionnaire, puisque ça deviendrait un parti qui chercherait à se renverser lui-même. Steinbeck utilise cette argumentation, qui est tout à fait compréhensible, tout à fait efficace. Mais il peut faire quand même beaucoup mieux, le Steinbeck. Hein. Mais bon, là, il est tombé assez bas, moi, je veux dire. Il utilise cet argument. Oui, vous ne pouvez pas être révolutionnaire, puisque vous tentez de maintenir un système établi. Vous êtes donc réactionnaire. Et c'est là que Steinbeck retourne en fait l'argument révolutionnaire. Vous êtes réactionnaire, vous maintenez par la force un système qui aliène l'homme. Alors que moi, je suis là, je suis encore dans la critique. Et je suis révolutionnaire, puisque je veux détruire en fait votre système aliénant. Bon, forcément, c'est pas là que c'est pas en reprenant ce paradoxe assez éculé en fait que Steinbeck va briller le plus par son intelligence. Et c'est peut-être en fait dans la suite de l'article que je vais vous lire. Et là Steinbeck il envoie du lourd. Donc je saute un petit passage parce que je fais ce que je veux encore une fois et j'y vais. La victime de ce système instauré par la violence est l'individu lui-même. L'individu doit en effet être éliminé, parce qu'il représente un danger pour tous les projets réactionnaires, en ce sens que l'individu est créatif, et que la créativité ne saurait être tolérée hors des limites étroites du statu quo. La créativité se fonde sur l'examen, la critique, le renouvellement, tous trois radicalement condamnés par l'idée réactionnaire, sous-entendu l'idée communiste. La pensée qui appartient exclusivement à l'individu doit être anéantie. Le cerveau de l'individu humain qui travaille de manière autonome est le seul organe capable de créer au sein de la nature. Le groupe ne crée rien. Ah, bon, si tu le dis, mec. Bien qu'il puisse parfois contribuer à l'exécution de la création individuelle, les systèmes réactionnaires doivent faire un choix. Il leur faut supprimer les interrogations et les critiques, source de danger, dans la mesure où de tels systèmes doivent se protéger de tout examen attentif. Mais en supprimant l'individu, il leur faut également renoncer à l'œuvre de l'individu. Il leur faut renoncer à la littérature, à la musique, à l'art. C'est en cela que consiste ma révolte. C'est en critiquant ce système. J'ai foi en l'individu et je me battrai pour défendre le droit qui est le sien d'agir en tant qu'individu, sans subir de pression d'où que ce soit. Je suis fermement opposé à tous ceux qui pourraient entraver l'esprit créatif. Peut-être est-ce là une erreur, mais c'est bien à cette erreur que nous devons les droits qui sont les nôtres. Je m'oppose aux pressions et aux restrictions dans mon pays comme ailleurs. La véritable révolte est là. Elle n'a rien à voir avec les slogans robotiques de zombies lobotomisés. Je comprends la nécessité du lavage du cerveau. La pensée doit être effacée, car la pensée représente un danger permanent pour les forces réactionnaires qu'elle finira inexorablement par détruire. La révolution la plus décisive et la plus marquante s'est produite lorsque les hommes se sont aperçus qu'ils avaient chacun une âme et que chaque individu avait une valeur. Ce concept a durablement bouleversé la face du monde, mais il lui reste encore une étape à franchir. Donner à l'individu non seulement le sens de sa propre valeur, mais aussi de l'importance de préserver cette valeur. Une telle révolution se prépare. Aucun système visant à imposer l'ordre et à conditionner la population ne saurait résister très longtemps. Et je me mets au service de cette cause révolutionnaire. L'esprit de l'individu doit être et sera libre. Donc voilà, Steinbeck ne critique pas l'idée de révolution. Ce qu'il critique, c'est uniquement le système communiste parce qu'il aliène l'homme. Parce qu'il empêche toute créativité par ses systèmes de propagande, par son goulag, par un certain nombre de choses qui font que l'individualité est écrasée. Le terme d'âme que reprend Steinbeck et qui est assez surprenant dans son vocabulaire et qui est d'ailleurs uniquement là, je pense, pour provoquer la rhétorique matérialiste de l'URSS reprise chez Marx. Le terme d'âme vient signifier une chose. Si on doit parler d'âme dans ce texte, c'est peut-être uniquement en l'opposant au corps. Steinbeck nous dit que la révolution ne peut se limiter à donner à manger à tout le monde. En fait, le Steinbeck de 1939 n'a pas été perdu, il a évolué. Si en 1939 la question était mais pourquoi on n'a pas tous à bouffer, qu'est-ce qui fait ça, là maintenant en 1954, la question, c'est pourquoi on n'a pas tous à bouffer ? Et une fois qu'on a tous à bouffer, pourquoi on n'est pas tous capables de s'affirmer en tant qu'individu et en tant que créateur, en tant qu'individu créateur ? Donc c'est une sorte de prolongation des raisins de la colère, et c'est en ça que je trouve que c'est intéressant et important.
Bonjour à tous.
Si tu pouvais voir ce feu qui brûle dans mon thorax, ma vie je la dois au rap, je la dois à l'orage. J'ai pas eu le parcours des petits cons dans la hype, non. Adolescence, c'était pas le king de la night, non. J'avais mon crew, c'était le criminosical. Entraîné près des barres à pute, à deux pas du poussicat. J'ai embrassé la nuit sur ses lèvres et la rue m'a pris par la main. Elle a fait de moi un putain de bon élève, debout jusqu'à la fin. J'ai pris les blocs qui m'entouraient au fil de l'épée, avec mes mains comme Saladin. Pourquoi compter mes secrets dans le boulot tête claire? Mon imagination je laisse faire. J'écris mes BO des cages à lapin. Au jour le jour mes traits s'allongent sur la feuille. Non, je pense toujours pas à demain. Jusque le rap a créé tout solide. Tu pètes le dos sur deux pignons d'olive. Y'a pas d'amour ici, c'est guerre à plein régime. Régie par les lois du bitume qu'apportent les origines. J'ai dû rater un truc. Peace, love et having fun sont devenus bitch, drogue et heavy guns. Rares sont ceux qui ont des roses à offrir. Bienvenue à la table garnie, au fichier aux frites. Où le sens de la vie s'est égaré dans la brume. Où les petits ne savent pas poser un nom sur un légume. Au cœur du pire ennui, j'ai posé ma balise. Élaboré mon plan, attendant que Dieu me la balise. Depuis dans le pré où les basses me tolèrent, j'écris un peu tous les jours les raisons de ma colère.
Quand on se tue à la tâche, pour rien dans la récolte. Normal que les vents portent la révolte. Que la terre, où l'on marche, est labourée par des molaires. Comprenez-vous au moins les raisons de la colère?
J'ai toujours le feu depuis le jour où j'ai croisé sa route. J'ai appris à voir dans le noir et oxyde tous mes doutes. On a voulu me parquer mais j'ai ferré le piège à loup. Et la passion m'a enlevé, élevé comme une louve. Grain de sel dans l'océan, j'ai pas voulu me dissoudre. J'ai remonté le courant jusqu'à ce qu'une autre porte s'ouvre. Il me fallait un ailleurs, là-bas ça sentait trop le soufre. Par manque d'envie, combien des nôtres croupissent dans les douves. Laisse-moi traîner ma plume sur cette route immaculée. Semer les graines les plus dures, les mots les plus ciselés. Sans but, isolé, déçu. L'abandon les recrute et le vide les attend pour les faire rissoler. J'suis désolé, c'est pas ma faute si les esprits les plus durs commencent à vaciller sous le poids de leur bracelet. Du coup le monde s'arrête là au coin de la rue. Tellement sûr d'échouer qu'au final il ne sait même plus du tout. Et ça tombe dans le facile, ça grossit les statistiques. Ça fait des choix douteux au moment le plus fatidique. Aucun exemple à l'horizon, la place est désertique. Il en faut peu aux affamés pour brûler leurs principes. À force d'entendre qu'on était bon à rien, beaucoup ont fini par le croire, hein. Quoi? Pourquoi je sale les dents? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre?
Je veux pas me faire avaler, y'a une goutte d'avenir à glaner. Laisse-moi foncer droit dessus, au lieu de rester assis à râler. Trop de barrières, moi je veux les voir les vertes vallées. Si je fatigue, c'est le courage qui va me chaler. Allez, maintenant j'ai plus le temps, les aiguilles tournent vite. Et je veux pas finir par me dire que la vie c'était mieux avant. Je suis personne, aucun être sur terre me fera taire. Sur ma feuille s'étalent toutes les raisons de ma colère.
Quand on se tue à la tâche, pour rien dans la récolte. Normal que les vents portent la révolte. Que la terre, où l'on marche et la bourré par des molaires. Comprenez-vous au moins les raisons de la colère?
Donc voilà, si je dois insister sur une chose pour finir, c'est sur l'actualité en fait des raisins de la colère. Pardon, les raisins, ça c'est Ayam qui vient de mettre un putain de bon son. Ils ont des références qui tuent ces mecs. Donc l'actualité des raisins de la colère. Et cette actualité, il y a un truc qui me chiffonne aujourd'hui, c'est qu'elle est un peu contestée cette actualité. Et notamment par les spécialistes, hein, les meilleurs critiques de Steinbeck. C'est-à-dire que, en fait, j'ai un petit coup de gueule à passer contre Marie-Christine Lemardelet-Quincy. Donc, vous la connaissez pas, moi non plus. Mais elle a écrit un commentaire des raisins de la colère, donc bravo elle, parce que c'est un très bon choix, super. D'ailleurs, ça m'a servi pour faire l'émission, il n'y a pas de souci. Le seul petit problème de ce commentaire, c'est qu'elle écrit, dedans, cette magnifique phrase, dès la première page. Si l'aspect subversif de son message politique... le message politique du livre, c'est quelque peu émoussé, sa vision des années 30 reste très convaincante. Donc elle écrit ça, elle a pas peur, Marie-Christine, elle est là, la vision, l'aspect subversif du message politique s'est émoussé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est là, qui galère dans les champs, ou à l'usine, ou qui est payé 3,25 €, ce que tu veux. Tu crois qu'il n'y a plus personne qui galère, Marie-Christine? Et c'est pour ça que tu nous dis que le message s'est émoussé. Donc voilà, déjà, Marie-Christine, là, elle commence bien son petit commentaire. Hein. D'ailleurs, la question de la critique sociale, ça fait 600 pages dans le bouquin, mais elle, dans son petit commentaire, elle fait un chapitre de 3 pages. Hein. Et pour dire ça, en plus, hein, genre 80 pages plus tard, la petite Marie-Christine, elle écrit « Subversif, ce roman l'est moins par son contenu manifeste que par les torsions discrètes qu'il fait subir au genre romanesque. En évitant la psychologie du personnage, il crée une distance qui n'interdit pas à certains personnages de susciter l'émotion. » Donc, subversif, ce roman l'est moins par son contenu manifeste que par les torsions qu'il fait subir au genre romanesque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, de quoi il parle, le roman, on s'en fout. Ce qui est très fort, c'est que Steinbeck a réussi à faire des distorsions romanesques, qu'il a une superbe écriture, etc. Et elle nous dit que c'est pas très subversif et que la question ouvrière, ça l'intéresse pas. Alors, Marie-Christine, déjà, il faut que vous sachiez un truc sur elle, c'est qu'elle s'est présentée aux élections municipales de Paris en tant que conseillère PS. Et pour une conseillère PS, dire des choses comme ça, moi je trouve que c'est quand même assez middle, assez bof. Donc bon, elle n'a pas gagné, mais elle est quand même rentrée au conseil municipal d'Anne Hidalgo, donc on la félicite hein, au passage. Mais bon, pour dire des choses comme ça dans tes critiques, Marie-Christine, s'il te plaît, c'est pas terrible. Que la prochaine fois, autre chose. Donc voilà, Marie-Christine fera mieux la prochaine fois, moi aussi. À la prochaine tout le monde. Ciao.